19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, comme chaque soir d'ailleurs. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je voulais vous remercier d'une chose, vous savez quoi les amis auditeurs? Vous remercier parce que je reçois pas mal de messages qui émanent de toute la France pour nous remercier, pour nous dire que voilà l'émission est pas mal, etc., etc. Donc mille merci parce que les informés, c'est d'abord vous. Vous qui faites les informés, évidemment. Nous, on n'est que prétexte pour vous accompagner. Voilà. Allez, au menu de ce soir jusqu'à 20h. Eh bien, le programme est chargé, les amis. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. À 19h, il y a un invité qui sera avec nous. C'est le maire de la ville, d'une ville du 93, qui sera avec nous. C'est Dieu Nord Excellent, 52 élus, appel à parrainer Taubira. C'est lui qui l'a lancé. On tâchera de comprendre les raisons pour lesquelles ils l'ont poussé pour justement adopter ce système de parrainage qui pose problème aujourd'hui démocratiquement. 19h30, le Quoi de Neuf avec Majid Soussil, c'est le docteur. Les trois sujets, eh bien nous parlerons, vous savez quoi, de Valérie Pécresse et de la primaire qualifiée de bidon. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête de Libération. Autre sujet, pourquoi Emmanuel Macron a choisi la ville de Marseille pour marquer son premier meeting de campagne le 5 mars? Oui, pour quelle raison il se lance? C'est surtout ça qu'on a envie de savoir. La crise entre la Russie et l'Ukraine. Aïe, aïe, aïe. Encore des sommets et des sommets. Mais surtout, que se passe-t-il avec la situation qui s'aggrave aujourd'hui? Et puis, vous, au 01-53-48-3000, ça c'est le numéro. Et je vous attends durant une heure pour intervenir et commenter l'actualité tous ensemble. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression, c'est parti.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité du jour, c'est parti.
Les informés, l'interview.
Et l'interview, c'est avec notre invité, c'est Dieu Nord Excellent. C'est le maire, donc, qui nous vient de la ville du 93. Il s'appelle Monsieur Dieu Nord Excellent. Bonjour, Monsieur le maire.
Bonjour, Monsieur Farkan. Merci une fois de plus pour votre invitation et votre enthousiasme. C'est vrai que vous êtes très écouté, notamment à Villetaneuse, parce que vous traitez des sujets d'actualité, des sujets brûlants même des fois, et puis des sujets qui sont important de traiter, notamment.
Merci, monsieur le maire, et on est là pour ça, effectivement. Monsieur le maire, monsieur Dieu Nord Excellent, vous avez lancé, donc, vous êtes à la tête, évidemment, d'un collectif. Vous avez publié une tribune dans le JDD, le journal du dimanche, c'était il y a quelques jours, où vous avez appelé à parrainer madame Taubira pour donner une voix aux votants de la primaire populaire. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Pour quelle raison vous avez tenter de prendre votre bâton de pèlerin pour, évidemment, sauver madame Taubira?
Non, il ne s'agit pas de la sauver. Déjà, merci de relayer cette démarche, parce qu'on a eu un peu de mal quand même à avoir des médias qui s'y intéressaient. C'est à croire que les 400 000 votants de la primaire populaire ne comptent pas. Et je remercie aussi le JDD qui a relayé cette tribune. Oui, il s'agit d'une tribune qui a été co-signée par plusieurs élus, notamment des élus qui ont parrainé madame Taubira, en sachant qu'il fallait mettre une cinquantaine, mais il y a beaucoup plus au-delà des 104 parrainages qu'elle détient aujourd'hui, selon le dernier décompte, parce qu'il y a encore plus de parrainages en fait qui n'ont pas encore été comptabilisés. Il s'agissait aussi d'exprimer que pour nous, qu'on ne peut pas priver le débat démocratique de la candidature de madame Christiane Taubira, cette candidature est légitime, comme on l'a dit, elle a été investie par un processus certes inédit de la primaire populaire avec un vote de près d'un demi-million de personnes.
Et pourquoi donner votre voix, votre choix à Christiane Taubira, puisque vous dites nous, maire et élu de la République, attaché à la démocratie, faisons le choix de donner une voix aux 400 000 votants de la primaire populaire. Pour quelle raison, monsieur le maire?
Ben, comme je l'ai dit, il y a eu cette légitimité qu'elle a gagnée dans le cadre de la primaire populaire, un demi-million de personnes. Il n'y a eu qu'un processus de désignation à travers une primaire qui a rassemblé autant de concitoyens de tout âge.
Comment vous avez convaincu vos collègues? Comment vous avez convaincu vos collègues, les maires partout en France? Vous avez quoi? Décroché votre téléphone? Vous les avez appelés un à un?
Exactement, et c'est ce que je continue à faire dans le cadre de cette mobilisation. Aujourd'hui, les chiffres sont effarants. Sur 40 000 élus qui peuvent parrainer, que seulement 10 000 ont aujourd'hui parrainé un candidat.
C'est ça.
C'est-à-dire que l'abstention, elle est déjà présente chez nos élus. Nos propres élus ne parrainent pas. Donc là, il y a un vrai problème, et je pense que ça peut verrouiller la démocratie. Donc Christiane Taubira, bien sûr, ses parrainages seraient, pour moi, en tout cas si elle les obtient pas, ce serait un profond, vraiment, c'est une profonde atteinte à notre démocratie, et je dis même un véritable camouflet pour la République, parce qu'aujourd'hui, parrainer, c'est un acte démocratique et non une démarche partisane. On peut parrainer quelqu'un parce qu'on est...
Vous arrivez facilement à les convaincre, les élus, justement, à venir soutenir et parrainer Christiane Taubira?
Alors, il y a beaucoup de promesses de parrainage. Le problème aujourd'hui, il faut se dire la vérité, moi je mets le pied dans le plat, et c'est que il y a un vrai souci de blocage des appareils politiques. Au principe, elle avait ses parrainages, notamment par...
Tout est verrouillé, c'est ce qu'on voulait nous dire.
De gauche, et qui a tout bloqué. Donc aujourd'hui, nous avons dû repartir quasiment à zéro pour rétro-pédaler, pour aller chercher ces parrainages. Je remercie tous les maires, bien sûr, qui répondent aux appels, aux sollicitations, parce qu'ils sont sollicités de tous bords, et je les remercie parce qu'on a un bel accueil, et puis moi, ça me permet d'échanger avec des collègues maires de petites villes, souvent, ou de villes à taille moyenne, et on peut aussi échanger...
Ça élargit votre réseau, monsieur le maire, du coup.
Non, l'objectif, c'est de déverrouiller la démocratie, et on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, que Christiane Taubira, qui représente l'espoir de ce renouveau démocratique citoyen, vraiment dans l'action politique, c'est un acte fort qu'il faut porter. Aujourd'hui, est-ce normal qu'en 2022, que des élus aient peur, voire même subissent des pressions
l'obtention.
Pour ne pas parrainer certaines candidats.
L'obtention, c'est toute la question du système de l'obtention des parrainages, justement, concernant cette campagne présidentielle 2022. Dites-moi, monsieur le maire, monsieur Dionor Excellent, le maire de la ville Tanneuse, justement, si Christiane Taubira ne parvient pas à obtenir, justement, ces fameux parrainages, qu'est-ce qu'il risque de se passer, justement, pour la suite?
Moi, je vous dis déjà, si elle n'obtient pas, en tout cas, on va tout faire pour qu'elle puisse les obtenir, c'est un véritable camouflet pour la République. On ne peut pas atteindre autant notre démocratie. Je vous parle de 400 000 personnes qui ont voté à cette primaire populaire. Aujourd'hui, moi, j'espère que vraiment le débat actuel, la preuve en est, nous pouvons en parler à l'antenne, permettra de créer une dynamique de parrainage, va déverrouiller un peu les choses, parce qu'aujourd'hui, plusieurs responsables politiques montent au créneau pour demander aux élus de faire une démarche de parrainage sur des principes démocratiques et non dans une démarche partisane.
Vous savez,
et
vous l'avez écouté, vous savez...
qu'elle obtiendra ses parrainages.
Et alors, vous savez, on l'est écouté notamment par pas mal d'élus. Qu'est-ce que vous avez envie de lancer comme message ce soir dans les informés?
Moi, j'ai envie de dire que on est dans un contexte marqué par la défiance et la méfiance envers les partis politiques. La preuve en est, c'est la candidate qui n'est pas soutenue par un parti, certes qui est partie après, mais qui a été plébiscitée par une démarche citoyenne. Cela ouvre aussi vraiment un nouvel espace de légitimité citoyenne qu'on ne peut pas négliger. Moi, j'ai envie de dire, moi j'étais à ces meetings, je l'ai même reçu à Ville-Tanneuse, comme vous avez pu le constater.
Oui.
Il y a une forte mobilisation, notamment de la jeunesse. On l'a vu à Creil, on l'a vu à Bordeaux.
Oui.
Les meetings de Christiane Taubira ont réuni vraiment une assemblée majoritairement composée de jeunes, attirés par cette candidature, je dis citoyenne. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que, et tout le monde le constate, ceux qui la soutiennent, ceux qui vont à ces meetings, que Christiane Taubira à l'élection présidentielle, si elle n'est pas en tout cas à cette élection présidentielle, c'est refusé, c'est un refus et un déni de démocratie.
Selon vous, est-ce qu'elle compte?
C'est faire entendre à nouveau vraiment cette gauche humaniste, solidaire, écologique.
Selon vous, ce sera ma dernière question, monsieur le maire, est-ce que Christiane Taubira peut peser durant cette campagne présidentielle?
Ah ben bien sûr, Bien sûr, oui, parce que c'est Christiane Taubira, comme vous l'avez pu remarquer, c'est la voix de femmes et d'hommes de tout âge, comme j'ai dit, sur tous les territoires urbains, ruraux. Moi, j'ai pu le constater à travers les appels téléphoniques que j'ai effectués, les territoires d'outre-mer, trop longtemps restés sans voix. Et nous avons besoin de cette voix, nous avons besoin de cet engagement, de cette personne qui vraiment est transpartisane. Et on ne peut pas faire barrage à cette candidature issue de cette primaire populaire. Donc oui, la France a besoin de la voix, du projet de Christiane Taubira à cette élection présidentielle.
Et Dionor Excellent, merci d'avoir été avec nous, monsieur le maire de la ville de Villetaneuse. Merci et bon courage surtout pour l'obtention de ces parrainages.
Merci à vous. Merci, on y arrivera.
Absolument. Tout de suite, c'est parti, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Et le standard est ouvert au 01-53-48-3000. Gamal Abina, quel retour. Bonjour. Bonjour. Ça faisait presque longtemps.
Oui, ouais, au moins 15 jours.
Ça va?
Ouais, impeccable.
Tout va bien. Bah écoutez, ça va. Je vous remercie infiniment. C'est parti, face à vous. Vous n'avez jamais débattu ensemble, je
non,
crois,
jamais,
il me semble.
C'est, hein.
C'est ouais. Jimmy Dalidou, qui est syndicaliste CGT, mais également aussi auteur. Voilà.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, comment ça va?
Ça va, ça va.
Messieurs, on va commencer avec ce premier sujet. Tout de suite, on met les pieds dans le plat. Libération a publié une longue enquête où Valérie Pécresse est la primaire bidon. Ils sont décédés, n'existent pas, ou ne connaissent rien du Parti des Républicains. On parle aussi d'une communauté asiatique impliquée. Ils sont quand même rejoints dans le mouvement juste avant la primaire. Alors, le journaliste de Libération, lui qualifie de, et qui parle, hein, de nombreux adhérents fantômes ou fantoches dans le fichier des Républicains en 2021. Messieurs, est-ce que ça risque d'affaiblir encore plus Valérie Pécresse? Gamal Abina.
Déjà, en préambule, je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a dit Dionor, qui est un très bon ami. Et je vais être très clair, parce que j'en parle assez régulièrement. On prétend être dans une démocratie, la France en l'occurrence, et on interdit, alors que c'est constitutionnel à l'origine, je ne parle pas des réformes qui ont été conduites après par De Gaulle et ensuite Mitterrand, on interdit à ce qu'un candidat à la société civile, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, même un pauvre Pécor, hein, même un Coluche, puisse, au motif qu'il ne fait pas partie d'un système politique de grands bourgeois, participer à l'élection présidentielle. C'est la seule élection au monde où on oblige une caste politique, oblige les maires qui font partie de cette même caste ou qui ont peur d'être sous pression, oblige à avoir 500 signatures. C'est-à-dire qu'on doit passer par des gens qui sont déjà élus et qui font partie d'un système pour être candidat. Je trouve
c'est pas démocratique.
C'est un système de dictature déguisée qu'on ne veut pas donner le nom.
On ferait comment alors? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Comme tous les pays du monde civilisé, quand on est démocrate, n'importe qui se présente, il peut être candidat. Il n'est pas normal que, au motif,
sans passer par la voie de l'obtention
des parrainages. Sans passer par aucun moyen de parrainage. Je veux dire, vous allez au Portugal, en Espagne, dans n'importe quel pays, ça n'existe pas. Ça s'appelle une dictature déguisée. Je prends un exemple très concret. Parce que la France aime bien donner des leçons. L'Iran a un système qui ressemble à ça aussi. Quand le système des ayatollahs valide les candidats qui se présentent, c'est les grands électeurs iraniens, donc c'est ce qu'on appelle, c'est un système politique particulier parce qu'à la fois il y a une direction bicéphale et en même temps il y a un système de gouvernance religieuse, c'est le conseil de la révolution littéralement ou le commandement de la révolution, qui s'occupe de ça. Et donc en Iran, pour que les candidats soient validés, il faut passer par la tête de l'État. Et bien en France, on fait le même principe à l'envers, cette fois-ci. Ce sont les maires qui font ça et c'est intolérable. Je considère que le système de parrainage, qui pour l'instant n'a jamais été remis en question par personne, est un système qui doit être aboli. Parce que non seulement ils ont imposé au début 100 parrains, puis ensuite, comme ils ont vu qu'il y avait un peu de candidats qui pouvaient arriver comme Coluche à l'époque, ils ont mis 500 parrains sous Mitterrand. Et ensuite, quand ils se sont rendus compte que les parrains pouvaient être influencés par des gens de la société civile, ils ont mis quoi? Eh bien, ils ont mis un système qui est encore pire que tout, hein, de délation par François Hollande. Chaque personne, alors qu'on est en démocratie, normalement, le vote doit être...
Normalement.
Il doit être donc... On peut voter sans dire pour qui on a voté. Et bien là, on oblige les gens, comme une sorte de chantage, à dire pour qui ils ont voté. Et on arrive à un système, le paradoxe...
Parlons de dictature du capital, Gamal.
C'est pire que tout. C'est le grand, pour le coup, c'est les hommes d'affaires qui font la loi. On arrive à un système où même une crapule, entre guillemets, enfin une crapule, il y en a beaucoup de crapules, mais des gens qu'on peut ne pas aimer. Je prends l'exemple caricatural, que ce soit Le Pen, qui est légal, hein. Zemmour, qui est encore légal, même s'il était condamné, il peut toujours concourir, ou d'autres candidats qui sont un peu périphériques, comme Anaskazi.
Bah, il risque de pas se retrouver, justement.
C'est inadmissible. De... Ça s'appelle un déni de démocratie, une confiscation du pouvoir par la haute bourgeoisie.
Je voudrais entendre Jimmy Dalidou.
Moi, je reviendrai
c'est très intéressant ce que vous dites, effectivement.
Alors, je reviendrai sur l'aspect, sur le bipolarisme dont on avait commencé à en parler. En fait, Ce qui s'est passé, c'est que oui, sur le fonctionnement en lui-même, sur les, par rapport aux primaires, les adhérents fantômes, franchement, il n'y a pas de surprise pour moi. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a eu.
À l'époque de Sarkozy, souvenez-vous.
Pourquoi ? Parce que, en fait, tu parlais, Gamal, de dictateur de l'Élysée, etc., etc. Moi, je parlerai clairement d'une dictature du capital qui, pour moi, si vous voulez, la démocratie n'existe pas. Il n'y a que deux systèmes dans ce monde. Soit on est dans une dictature populaire, soit on est dans une dictature du capital avec des souplesses sociales. Faut pas confondre démocratie, qui est une notion assez, ma foi, assez philosophique quelque part, et conquête sociale.
Donc l'obtention des parrainages, c'est pas normal aujourd'hui.
Je terminerai par l'obtention des parrainages, mais avant, je voudrais revenir sur justement le bipolarisme politique qui, à l'époque, fonctionnait bien. Mmh. Le bipolarisme politique qui était la meilleure forme de possible la pour la dictature du capital, c'est-à-dire l'UMP-PS à l'époque. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme à l'époque de la... après 1789, absolument. C'est-à-dire on se partage le pouvoir, absolument, selon ce qui se passe dans les esprits, soit c'est la droite, soit c'est la gauche. Et puis on s'arrange pour que le bipolarisme politique. Le problème, c'est que ça s'est cassé la gueule. Donc les Républicains ont besoin d'une régénération politique. Il faut qu'il y ait une remise en selle. C'est un des deux grands partis du capital et ils ont été financés pour ça. Ils sont organisés pour ça. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, par la haute bourgeoisie, par ce que j'appelle les représentants du capital. Mmh. Et donc, pour ça, ils sont tous, ils vont passer par tous les moyens possibles. Ils vont même faire adhérer des chiens et des chats, quoi. Vous voyez, ou des cochons et je sais pas qui d'autre.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors, selon vous, Gamal Abidal lui dit, il faut en finir avec ce système.
Effectivement, moi,
le
système de parrainage me gêne aussi. Parce que, indépendamment des personnages, si on commence à, le problème qui se pose, et là, pour le coup, j'étais plutôt d'accord à ce que disait le maire tout à l'heure, c'est que si vous avez 500 000 personnes qui votent, à peu près, disons, on n'est pas dans une approche quantitative, 500 000 personnes qui votent. Alors, vous avez 500 000 personnes qui votent pour une personne, et c'est quelques maires en France, quelques personnes qui représentent une association, l'Association des maires de France. J'aimerais bien savoir qu'il y ait d'abord une certaine transparence par rapport au mode de fonctionnement de l'Association des maires de France.
C'est une petite association.
Mais ça voudrait dire aussi que, par exemple, des camarades comme Philippe Poutou ne pourraient pas se présenter.
Il n'y a pas de signature, d'ailleurs.
Et moi, ça me pose un problème. Lui aussi, là, il a un problème de parrainage. Je pense qu'effectivement, une dictature du capital avec des souplesses sociales qui étaient assez... pas mal de conquêtes sociales après, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle l'époque des baby des boomers. Le problème, c'est qu'on arrive à une époque où l'impérialisme, la dictature du capital, a besoin de reprendre ses conquêtes sociales.
Le débat continue, messieurs. Je voudrais vous entendre aussi partout en France, nous appeler au standard, il est ouvert, 01 53 48 3000. Que pensez-vous, évidemment, de cette obtention des parrainages? Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce que vous partagez le point de vue de nos débatteurs? Nous allons revenir juste après la pub avec cette question qui est dans l'esprit de beaucoup d'entre vous. Pourquoi Emmanuel Macron a bien choisi Marseille pour son premier meeting de campagne le 5 mars? Pour quelle raison? Ça y est, l'agenda se dévoile peu à peu. Allez, à tout de suite, ne bougez pas.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Il est 19h24 pour tous celles et ceux qui viennent de nous retrouver. Sachez-le, le standard est ouvert. Jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et on vous donne la parole jusqu'à 20h. Vous êtes nombreux à nous appeler au 01 53 48 3000. Le face-à-face avec Gamal Abina, réalisateur aussi, mais également aussi porte... Oui, absolument, vous avez bien raison de le rappeler. Jimmy Dalidou, syndicaliste CGT, un vrai marxiste. Il a bien raison, il le revendique. Mais également aussi auteur. Messieurs, nous allons ouvrir l'antenne et nous allons aller direction Argenteuil pour accueillir Stéphane. Ensuite, Karim de Pantin, vous êtes beaucoup nombreux, hein, Alain de Créteil et beaucoup d'autres. Allez, Stéphane, bonsoir.
Bonsoir, merci de me donner la parole. Bonsoir à tous les auditeurs et puis à votre équipe.
Bonsoir. Eh bien, on vous écoute, mon cher Stéphane.
Oui, je me retrouve pas mal dans les propos de votre intervenant. Je pense que c'est Johnny, celui qui est
Jimmy,
le syndicaliste.
Jimmy, pardon.
Alors, tout d'abord, je trouve que vos deux intervenants ont fait un très très bon point sur le système des parrainages, qui est complètement dégueulasse, parce que pour moi, qui habite à Argenteuil, au Val d'Argenteuil, ça invisibilise tous ces jeunes et ces moins jeunes qui ont plein d'idées en tête, qui vivent le chômage, qui vivent la précarité, qui vivent des situations difficiles, mais qui veulent s'en sortir.
Exact.
Et le collègue voilà, réalisateur.
On est très écouté chez vous, Argenteuil. Vous le savez, ça?
Ah, ben la preuve.
Je vous le dis, on a une audience et je remercie d'ailleurs les auditeurs d'Argenteuil. On a un bon, gros bassin d'écoute là-bas chez
big
vous.
Big up pour les Argenteuillais.
C'est ça, il dit big up à vous, Jimmy Dalidou.
C'est gentil, mon cher Jimmy. Vous savez, on est un bastion ouvrier aussi, hein, toute la Seine-et-Oise, le port Edoc de Gennevilliers, tout ce coin-là, Colombes. Je pense que vous connaissez, mon cher.
On vous écoute alors. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire alors, Stéphane?
Donc, système de parrainage, il est dégueulasse, il est antidémocratique et il invisibilise au sens propre comme au sens figuré une myriade de candidats ou de potentiels candidats qui sont issus des couches populaires et qui pourraient, je sais pas comment le dire, je suis pas un habitué de la radio, qui pourraient se faire l'écho des luttes ou le porte-voix, en fait, des revendications et de la lutte contre les discriminations. Et j'enchaîne. Sur le Macron à Marseille.
Oui.
Macron à Marseille. Macron, je pense qu'il va surfer sur ce que fait Zemmour, en fait, hein, fait de vouloir monter une partie des Français les uns contre les autres, d'attaquer les couches les plus populaires et les plus paupérisées. Il va utiliser,
Gamal
à mon avis,
à sa sauce. D'accord avec vous, Gamal Abina.
Avec grand plaisir. Moi, j'aime le désaccord. Il n'y a aucun problème avec ça.
Je laisserai répondre tout à l'heure.
Bien sûr. Mais au final, est-ce que c'est important de parler de Macron? Parce que Macron ou quelqu'un d'autre, ce sera exactement la même politique. Et là, je rejoins l'avis de Jimmy. Vous regardez ce qui se passait sous Hollande. C'était pareil. On a eu la fermeture de l'usine PSA. On a eu des manifestations populaires qui ont été réprimées. Il y a eu des luttes aussi à Argenteuil qui ont été réprimées. Et puis avant lui, c'était Sarkozy. Les lois de sécurité. Non, mais voyez, c'est le même cirque. Il se passe la patate chaude, mon cher Adil, tous les 5 ans pour effectuer la même politique. C'est ça qui m'énerve.
Vous avez raison. En soi, c'est votre opinion. Vous avez raison. Mais il ne faut pas baisser les bras, et je pense que cette campagne présidentielle, il ne faut plus que jamais, moi je le martèle en permanence tous les soirs, plus que jamais aller emprunter la voie du vote. Vraiment, mon cher Stéphane. Il faut appeler tout le monde massivement à aller voter. C'est très important. Pourquoi ?
Est-ce que ça va changer quelque chose ?
Pour créer le rapport de force. Tout simplement.
Je pense qu'il y a un truc à dire là-dessus.
Mais il y a beaucoup de trucs à dire. Stéphane,
je termine juste et après je laisserai.
Allez-y, parce que vous êtes
nombreux à vous appeler. Est-ce que le rapport de force, finalement, il n'est pas dans les luttes ou dans la rue? Je ne sais pas, je me pose des questions.
C'est les deux. C'est les deux. Les deux outils, les deux armes, c'est le rapport de force. Merci Stéphane. Je vais accueillir Karim de Pantin et puis il y a Albert de Gonesse. Anan aussi de Créteil. Karim, bonsoir, mon cher Karim.
Bonsoir Adil.
Bienvenue, on vous écoute.
Alors moi, je pense un petit peu comme le monsieur d'avant. Je pense qu'il a choisi Marseille pour venir nous faire croire que le problème que rencontrent les minorités, il y est extrêmement sensible. Donc il va y être extrêmement sensible à la fin de son quinquennat. Mais moi, si vous voulez, en tant que franco-maghrébin, j'en ai marre. Moi, depuis 1981, je me fais avoir par la gauche. Tout ce que nous ont promis les socialistes, les communistes, et qu'ils n'ont jamais réalisé, comme par exemple nous faire des lois contre le contrôle au faciès ou le droit de vote pour nos parents municipaux, des choses comme ça.
Oui.
Et j'ai pas envie de retomber dans le même panneau avec, avec Macron. D'autant plus que, vous êtes au courant qu'il se passe pas une journée sans qu'on ferme une association, sans qu'on ferme une école, un collectif, au tel point que moi, personnellement, je sais plus où finit l'islam et où commence l'islamisme. Et puis, je n'oublierai pas non plus les lois prétendument contre les séparatistes, qui sont de véritables lois de Nuremberg concernant les musulmans. Donc, moi, je pense qu'il faut aller massivement voter, mais comme vous dites, mais vraiment massivement, quitte à y aller en meute, il faut aller voter au premier tour. Mais au deuxième tour, moi, personnellement, si c'est Macron face à... Bon, sauf si c'était quelqu'un de gauche, mais si c'est Macron face à Le Pen et Zemmour, moi, je resterai chez moi parce que j'en ai marre d'être le cocu de la République.
Non, dites pas ça. Allez, merci Karim pour votre point de vue. Je laisserai Gamal Abina répondre, Jimmy Dalidou aussi répondre. Vous allez répondre, messieurs. C'est très important. C'est pour ça que j'ai voulu susciter, si vous voulez, l'ouverture d'antenne et le débat. Albert de Gonesse. Bonsoir, Albert. Et on ira du côté du Quad Neuf avec le docteur Majid Soussine. Bonsoir, Albert.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je voulais parler du système de parrainage.
Oui, on vous écoute. Clair et précis, s'il vous plaît.
C'est un système qui n'est pas d'une démocratie. vu que c'est un système de l'entre-soi, c'est tout.
C'est ça.
En fait, et puis n'importe qui ne peut pas se présenter, donc c'est pas normal que, en fait, les gens n'arrivent pas à avoir des parrainages pour pouvoir se présenter aux élections facilement.
C'est vrai.
Enfin, c'est, et vrai, en plus, c'est votre point de vue. Bon, alors quand vous regardez les hommes politiques, enfin Zemmour ou autres, qui veulent lutter contre la délinquance, il ferait mieux de commencer à lutter contre la délinquance au sein du gouvernement. Parce que quand on a un ministre de l'Intérieur qui est en prison pour avoir volé de l'argent saisi au caïd de la drogue, comment voulez-vous que ça fonctionne en France?
Eh ben, écoute, oui.
Donc, c'est pas normal de voir des trucs comme ça. On a un maire qui est condamné, qui respecte pas les lois, qui méprise le système.
Oui.
Mais c'est eux-mêmes qui doivent représenter les valeurs.
Ils vont répondre, nos débatteurs influenceurs, Gamal Abida. Merci, Albert, pour votre appel. Franchement, c'est extrêmement important d'entendre votre avis, votre point de vue au 0153 48 3000. Anan de Créteil, restez avec nous, hein, ne bougez pas, c'est le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, comme chaque mercredi, vous le savez, c'est avec le célèbre docteur Majid Soussine. Bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Comment ça va, mon cher docteur?
Ben écoutez, pas si mal.
Chef de service.
Bien que vous.
Oui, c'est ça. Même mieux que moi, je dirais. Chef de service, donc, à l'hôpital Sainte-Camille, aux Invalides, chez les militaires, mais également aussi au SAMU. Vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, eh bien, à la Russie, Poutine et la discrimination positive. À vous la parole, comme dirait l'autre.
Ben écoutez, mon cher Adil, vous êtes moqué de moi la semaine dernière quand je vous annonçais la guerre en Ukraine.
C'est vrai.
Et pourtant, n'avais-je pas raison?
Vous avez été un visionnaire.
Ouais, voilà, le tsar sera comme en 2008, quand il a englouti l'Abkhazie et l'Ossétie du Nord, et comme en 2014, quand il a avalé la Crimée. Poutine, voyez-vous, est ce genre d'homme qui est ouvert à la discussion quand il a ce qu'il veut. Demandez à Beslan ce que les gens pensent de sa façon de discuter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2004, de cette école où des séparatistes tchétchènes prenaient en otage des enfants et des adultes.
Bien sûr.
Les forces spéciales russes ont donné l'assaut. Résultat, 334 civils tués.
Je le rappelle que Morad Eitabouch l'avait consacré, parce que c'est un ami, absolument, grand reporter, un excellent reportage qui avait été diffusé il y a quelques années sur France Télévisions, et c'est vrai, allez le voir parce qu'il est juste poignant.
Et oui, et face à lui, les leaders européens apparaissent comme des tigres de papier aussi musclés que des caramels mous, et il le sait. Il semblerait d'ailleurs que notre ministre des Affaires étrangères, dont le silence et la discrétion n'égale que celle du ministre des Affaires étrangères suisse, ait décidé, à titre de sanction contre Poutine, pour la presque annexion du Donbass, et Xi Jinping, pour le massacre des Ouïghours, de leur interdire, à titre de sanction, d'acheter des tickets de métro.
Aïe.
Quel courage. Vous me direz, ne nous fâchons pas avec les Russes. On peut avoir besoin d'une banque russe pour financer sa campagne, comme notre amie Marine Le Pen, ou d'un poste dans un conseil d'administration, comme notre ami Fignon.
Oui.
Mais ceci, a dit, est sans importance. Oui. En France, à l'heure actuelle, nous avons deux problèmes.
Oui.
Le premier est de savoir si Emmanuel Macron sera candidat.
Oui.
Et là, j'avoue que le suspense est intolérable, y compris pour vous, Adil, qui avez déjà acheté un billet en première classe pour Marseille le 5 mars.
Vous avez droit à la clochette, vous ! Clochette ! Non mais ça va, monsieur le docteur !
Le 5 mars, vous devrez se tenir le premier meeting du presque candidat. Le second problème va vous parler, vous qui êtes comme moi un vieux militant. Faut-il mettre en place de la discrimination positive ?
Ah, vraie question.
C'était ce que je déclarais en 2014 devant une commission au Sénat qui m'interrogeait. J'étais aussi à l'époque favorable aux statistiques ethniques, mais ça c'est un autre sujet.
C'est clair.
Je suis donc sûr que vous aussi y serez favorable, mon cher Adil.
Oui, oui, oui.
Sauf qu'il y a un os, et cet os est énorme. C'est que, voyez-vous, on veut appliquer à Marine Le Pen et Éric Zemmour ce qu'on nous refuse à nous. Car on a peur, hélas, d'un accident électoral s'il venait à ne pas se qualifier pour la présidentielle. Car ces pauvres gens viennent de partir en zone politique difficile, parce qu'ils ont un faible réseau, parce qu'ils sont victimes des préjugés. Avouez, Adil, que pour des leaders d'extrême droite, être traité comme de vulgaires beurre ou black, de quartier, c'est ce que l'on peut appeler l'ironie du sort.
C'est ça, exactement. Écoutez, merci pour ce billet d'humeur, mon cher docteur Majid Soussine. Ça va plutôt bien en ce moment dans les hôpitaux?
Bah, ça va très mal, mais c'est pas tout neuf. On commence à s'habituer à ce que ça aille mal.
Bon.
Alors, bah, on est très rassurés parce que tous les leaders politiques vont nous préparer un programme qui va redresser l'hôpital public et maintenir un service public
de
qualité. Je n'ai aucune inquiétude.
Oui, merci, docteur Majid Sehoussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, aux Invalides chez les militaires, mais également aussi au SAMU. À mercredi prochain, sans faute.
Avec joie, mon cher Adil.
Partagez, mon cher ami. Tout de suite, c'est Anan. Tiens, je vais la prendre avant la pause d'Anan. Anan, je vais lui demander de faire court. Bonsoir, ma chère Anan.
Oui, bonsoir. Comment allez-vous?
Mais très bien, vous nous appelez de Créteil. Allez, je vous laisse. Vous avez 30 secondes, ma chère Anan. Allez-y.
Je vais tenter de faire très, très vite.
Allez-y.
Pour réagir à Macron, à notre président de la République, qui est à Marseille ce jour, il est parti tâter le terrain, en fait, pour voir tout simplement comment ça va se passer. Après, ça passe ou ça casse. Mais je pense que la popularité... Voilà, je pense qu'il tape le terrain. Après, c'est ce que j'ai ressenti. Et pour en revenir, en fait, par rapport au parrainage, le parrainage est simplement, en fait, c'est... Pardon pour l'expression, j'allais dire un gros mot, mais c'est grandement débile, en fait. Ça permet, en fait, tout simplement de dire, voilà, vous n'avez pas le droit de vous présenter. Les élections ne sont réservées qu'à une certaine caste, à une certaine popularité, à une certaine population.
C'est ce que dit Jimmy.
Qui n'a pas le droit. Oui. Voilà, une certaine population et pas d'autres.
Eh ben merci Anan. Pertinent. Merci Anan. 0153. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. 0153483000. Vous êtes extrêmement nombreux et ça fait chaud au cœur. Les informer. On retrouve Gamal Abina, Jimmy Dalidou. Justement, vous allez réagir à tous celles et ceux qui se sont exprimés là. Ça vous va, messieurs?
Oui, exactement.
À tout de suite. Ne bougez pas. Restez avec nous.
Les informer revient dans un instant. Beurre FM. 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Le face-à-face avec Gamal Abina, avec Jimmy Dalidou, avec vous. Vous continuez à nous appeler au 0153483000. Pourquoi Emmanuel Macron a choisi, la ville de Marseille pour son premier meeting de campagne le 5 mars prochain? Est-ce que l'agenda est en train de se dévoiler? Eh bien, petit à petit, mon cher Jimmy Dalidou, on vous écoute, ensuite Gamal Abina.
Alors, c'est clair que...
Et vous pouvez confronter vos points de vue, il n'y a pas de problème.
Macron, en fait... Là, il s'est lancé dans sa candidature blitzkrieg, je dirais. Blitzkrieg. Et en fait, ce qu'il cherche, c'est qu'en fait, c'est pas pour rien qu'il a choisi Marseille, parce qu'en fait, ce que cherche à faire le gouvernement Macron, c'est de déclencher ce piège électoral qui est le Front Républicain. En fait, actuellement, il y a une stratégie. La dictature du capital, elle opte pour
il a droit à une clochette.
Stratégie des dauphins en feu.
Désolé, mais bon.
Alors, si vous me permettez d'aller jusqu'au bout. La stratégie des deux fers au feu. C'est-à-dire que la dictature du capital a compris que les gens ne vont plus voter parce que les gens ont pris conscience qu'ils vont voter pour la même classe sociale. Ils en ont parlé, les intervenants, tout à l'heure. On parle de caste. On parle de système de l'entre-soi.
Karim, Stéphane,
Albert. Ils ont compris qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui se trame derrière leur dos et c'est toujours les mêmes qui décident. Alors, ils utilisent les termes qu'ils connaissent, mais les termes on pourrait utiliser le terme plus simple qui est classe sociale dominante. Bref, ce qu'ils veulent, c'est les fronts républicains. Pourquoi? Alors, vous avez Zemmour, qui est le candidat d'extrême droite qui va permettre d'adoucir l'identité politique du RN.
Le candidat de la droite.
Ce que les forces du capital au pouvoir espèrent,
la droite,
c'est
chrétienne,
que ce soit Zemmour. Que ce soit Reconquête ou RN, ils s'en foutent en fait. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait appel au Front Républicain. Et pourquoi il va à Marseille?
Ou la droite réelle.
Et pourquoi il va à Marseille? Parce que Marseille, c'est l'exemple du multiculturalisme. C'est l'exemple de ce qu'on appelle le culture dans le sens universel du terme. La culture, c'est pas... c'est faux ce qu'ils vous disent, Zemmour, sur la culture. C'est totalement bidon. Là, j'aurais pas le temps d'en parler. Mais il faut revenir au fondement de la culture.
Gamal Abina. Gamal Abina sur Emmanuel Macron. S'il vous plaît, Gamal Abina sur le Marseille et son choix de Marseille.
Très rapidement, sur la question de la culture de Zemmour, elle est très limitée. On va pas revenir là-dessus. Il faudrait le confronter. Je l'ai appelé à
débat. Il va venir.
En débat 10 fois.
Je vous mettrai en face de lui.
Ce sera avec plaisir, comme ça on pourra discuter de sujets sérieux, d'histoire.
Mais tous les candidats vont passer, il y a eu Yannick Jadot. Prochainement, là, c'est Mélenchon, Valérie Pécresse, tous, y compris Emmanuel Macron qui m'a donné son accord.
Il y a au moins une chose que je peux accorder à Le Pen, c'est qu'elle a eu le courage de m'affronter, ce qu'il ne fait pas Zemmour aujourd'hui. C'est quand même un peu la
mort. Marine Le Pen vient bientôt aussi.
Et bon, on espère recevoir nous. Mais en tous les cas de figure, voilà, pour revenir à le Front Républicain, effectivement, alors la stratégie, elle est simple. Macron a été conseillé par un homme qui avait adopté la même stratégie pour Mitterrand.
C'est à la main.
Non, pas Adam Hanks, c'est Jacques Attali. Jacques Attali est un penseur, un stratège politique, de joue aux échecs d'ailleurs, qui a conseillé Mitterrand à l'époque en disant fais monter l'extrême droite, donc Le Pen de l'époque, le grand méchant loup, le nazi, entre guillemets, fais monter l'extrême droite, comme ça tu casseras la droite classique. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement, pour garantir l'élection en 88 de Mitterrand, il a fallu atomiser la droite face à l'extrême droite avec ce choix cornélien, est-ce qu'on prend pas les écoles du Front National ? Ça a marché. Donc c'est Le Pen, c'est Mitterrand qui a fait monter l'extrême droite. Aujourd'hui, on a une nouvelle extrême droite, et là je suis pas d'accord avec vous, Adil, sur Zemmour. Zemmour est d'extrême droite, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un discours ultranationaliste. Ensuite, c'est un discours ouvertement raciste. Les Français d'abord, il n'a pas
inventé. C'est pas ce que dit Jimmy Dalidon.
Non, mais tout le monde le dit.
Il va beaucoup plus loin.
Moi j'ai dit que Zemmour était un fasciste. C'est le candidat fasciste de la dictature du capital.
Sur la conscience politique.
J'ai pas peur des mots.
Oui, mais il faut dire, c'est du fascisme, effectivement, parce qu'il y a un rapport racialiste. Et là, dès l'instant où on parle de race, dès l'instant où on revient sur les vieilles lubies de Gobineau, Arthur de Gobineau, qui était donc l'un des premiers racistes idéologues du 19e siècle. Dès l'instant où on revient sur ces vieux poncifs, dès l'instant où on défend Pétain, qui est quand même nazi, hein, c'est pas rien. Il a quand même composé avec les nazis, c'est lui qui a fait la Mises. Dès l'instant où on défend des gens comme ça, on est raciste et on est d'extrême droite. Maintenant, pour démontrer qu'il n'est pas d'extrême droite, c'est simple, il passe son temps à parler des Français, de la France qui brille de cette espèce de nationalisme ultra. C'est un enfant de la guerre d'Algérie.
Emmanuel Macron.
Voilà. Donc, ce produit, je parle de Zemmour, a été lancé pour atomiser la droite. Et monsieur Macron, lorsqu'il va à Marseille, c'est vrai, l'analyse est juste, je suis totalement d'accord, la ville par excellence multiculturaliste, Macron revient sur ses premières stratégies politiques. Quand il est arrivé à l'élection, il avait ouvert à beaucoup de monde. C'est lui qui a amené beaucoup de monde à l'Assemblée de couleur. Et bien aujourd'hui, lorsqu'il va à Marseille, il reprend la même stratégie, il recommence sa campagne dans la même ville où il a débuté sa campagne il y a 5 ans. Et il dit quoi? Il dit, je suis le candidat au-dessus de la mêlée. Je m'intéresse pas à vos débats raciaux et vos trucs racistes. C'est fini, ça, il a déjà mis de côté. Il veut montrer que c'est un candidat présidentiable de qualité. Et aujourd'hui, il a réussi à fragiliser l'extrême droite.
Il a peut-être raison.
Non, je sais pas s'il a raison, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est malin. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il a raison en termes de réussite économique, on peut en discuter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a détruit littéralement Le Pen, qui passe pour quelqu'un de sympa. En fragilisant Le Pen avec un Zemmour, avec lequel il n'est pas ennemi. N'oubliez jamais que Macron, quand Zemmour a été agressé dans la rue, il l'a appelé le lendemain. Donc pour des ennemis, ça va. Eh bien, pour dire simplement, c'est que la stratégie politique, c'est de faire en sorte.
Dans ce cas-là, il l'a pas détruit. S'il lui a donné un visage, on va dire, politiquement humain, on va dire.
Il a boosté politiquement, mais il a fragilisé Le Pen, qui perd des voix, qui ira au second tour, c'est à peu près sûr, et qui surtout détruit littéralement la droite. Parce que M. Macron a besoin des gens de droite pour renforcer son l'aile droite, parce que l'aile gauche, elle a comme elle s'affaiblit clairement. Donc aujourd'hui, il fragilise la droite, comme l'avait fait à l'époque Mitterrand. Il rend une image humaine à Marine Le Pen pour qu'elle soit au second tour, mais qu'elle perde.
Marine Le Pen, son rôle, oui, c'est pas d'être élue en fait. Hein. Elle n'est pas faite. D'ailleurs, juste un exemple.
Non, vous avez toujours dit que le lièvre, c'est Zemmour.
Marine Le Pen n'est pas là pour être élue. Un exemple, deuxième tour du débat. Face à Macron, c'est pas si vous vous souvenez. Vous pouvez regarder sur YouTube le Macron. Elle est face à Macron, face à un économiste.
Absolument.
Ça vous paraît pas bizarre, vous? Toute sa campagne, elle vous parle des immigrés. Ouais. Elle vous parle des soi-disant les immigrés dangereux, blablabla. Bref, on connaît la chanson. Ouais. Et elle arrive au deuxième tour, elle peut passer. Et à ce moment-là, elle reste sur le seul terrain sur lequel elle est sûre de perdre, le terrain économique.
Alors, pas tout à fait, c'est pas ce qui s'est passé. Je suis d'accord sur l'analyse.
Alors, je suis pas complotiste, hein, mais.
Non, il n'y a pas complot, c'est la politique. Dans la politique, on fait les coups de crasse. Mais ce qui se passe, je ne pense pas que Le Pen ait une telle duplicité. Je pense qu'elle voulait vraiment arriver au second tour. Sauf que pendant toute sa campagne, avant même ce débat-là, les journalistes l'ont fragilisée sur l'économie parce qu'elle est nulle en économie. C'est une femme qui a été formée dans le droit, elle est avocate 6 ans, elle y connaît rien dans les chiffres. Tout comme d'ailleurs Zemmour, il est absolument nullissime en économie, vous regardez son programme, vous rigolez. Pour vous dire, c'est que Macron sort de la Banque Rothschild, donc d'une formation d'économiste littéralement, et il est arrivé avec ses petits dossiers, ses petites feuilles roses. On voyait bien qu'elle était en panique et ses conseillers l'ont entraîné dans l'échec. Elle n'aurait jamais dû s'inscrire sur le débat économique parce qu'il connaissait rien. Macron l'a ridiculisé, c'est comme ça qu'il est passé.
Je pense plutôt que c'était, je dis pas conscient, mais ça faisait partie des rouages du politique qui consistait que, encore une fois, Marine Le Pen avait pour principal boulot de faire élire Emmanuel Macron.
C'est pour ça qu'elle est restée sur le terrain économique, elle a fait semblant
qu'elle était faible, etc. Mais non, son boulot était fait, en fait. Donc, il fallait perdre du terrain pour laisser passer le banquier qui était en face d'elle et qui, finalement, l'a fait vivre politiquement, quelque part.
Il était cool avec elle, quand même, dans les débats. Il a pas assassiné, hein, clairement, parce qu'il y a des moments où elle disait des choses énormes. quand on se trompant d'usine, on se trompant de dossier, on se trompant d'économie.
Bah oui, parce que son boulot était fait. Marine Le Pen a assumé son travail de
front, je suis pas sûr,
de déclencheur du Front Républicain.
Je suis pas sûr que tu aies raison là-dessus.
Logique. Logique.
Bah, c'est une réalité dans les faits. C'est un tremplin pour qu'il puisse arriver à le second tour. Mais avec ou sans la réussite en économie, de toute façon, le Front Républicain est levé. C'est ce qui va se passer à nouveau. Quand elle va arriver avec une image un peu plus sympa, ils vont quand même la flinguer pour le Front Républicain parce que Macron doit passer. Il va faire ses 10 ans.
Parce que c'est le représentant des banques et des multinationales.
Et dernière chose importante. Aujourd'hui, il faut que les auditeurs entendent une chose importante. Très importante. La question de savoir si Macron va passer ne se pose même pas. Il passera, c'est sûr et certain. Et
on est d'accord. Ça, j'en suis moins sûr, par contre.
Mais j'en suis certain. Pourquoi? Parce que tout est organisé pour qu'il passe. Stratégiquement, il joue aux échecs. Mais par contre, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où vous devez ne pas perdre cette attention essentielle. Ce qui peut détruire Macron, littéralement, si on veut en finir avec le macronisme, c'est qu'il perde les élections législatives, et c'est ça l'enjeu principal. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec une majorité parlementaire qui lui soit opposée et qui l'oblige à composer 5 ans avec un pouvoir qui n'est pas le sien. Et là,
par contre, parce que si repasse Macron, une chose est sûre, c'est que s'il repasse, moi, par contre, je peux vous dire que il risque de se déclencher une guerre civile en France.
Non, pas guerre civile.
Non, mais si on revient sur les chiffres, en 2017, 25,44% des inscrits n'ont pas voté. En deuxième taux d'abstention historique après 1969, 34% de 34%. En fait, il n'est pas passé par suffrage.
Messieurs,
en faveur de Macron.
80%
c'est un accident
des jeunes,
politique, Macron.
80% des jeunes nous ont émis l'intention d'aller effectuer leur vote,
leur devoir citoyen
au premier tour.
C'est pas trop tôt.
Attention. L'Ukraine, un sommet des 27, dernier sujet convoqué en urgence. C'est demain que ça se passe à partir de 20h. Ça y est, Vladimir Poutine a reconnu la souveraineté des séparatistes, mais surtout, la réplique, c'est quoi? C'est que plusieurs pays prennent des sanctions financières contre la Russie. Que se passe-t-il, mon cher Gamal Abina?
Eh bien, simplement, alors là, j'ai un ami qui a parlé tout à l'heure à la radio et j'apprécie beaucoup, c'est
le docteur Magistre,
qui est ami, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je ne partage pas du tout son approche. Il a raison, ce n'est pas un enfant de cœur, monsieur Poutine, mais là où je le rejoins pas du tout, c'est d'oublier qui sont les agresseurs. Ça, je n'accepte pas qu'on me dise que les Russes, qui ont été agresseurs, effectivement, à l'époque, pour ce qui concerne...
Et ils n'ont pas été tendres.
Ils n'ont pas été tendres, surtout pour ce qui concerne la Fédération
Quand
russe.
Quand on connaît l'histoire.
Pour empêcher que la Russie n'implose, Poutine a massacré effectivement ces malheureux, c'est les Tchétchènes. Il fait référence à l'école dans laquelle effectivement ils sont allés à la sauvage.
C'est un tyran ou c'est pas un tyran?
Ça va plus loin que ça.
Je vous pose la question.
La tyrannie,
c'est un représentant du capital, mais de là à dire c'est un tyran.
Non, il n'est pas tyran. S'il était tyrannique, il n'y aurait même pas la moindre opposition dans son pays. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ensuite, surtout parce qu'il ne confisque pas le pouvoir de façon permanente et surtout il y a les élections. Alors, ce qui se passe, c'est que Poutine est un ultranationaliste, on a compris.
La Corée du Nord, Kim, oui, est un tyran.
Oui, lui, c'est un tyran. Mais il est dans son rôle.
Saddam Hussein était un tyran.
Oui, mais ils sont dans leur rôle de défensif. La Corée du Nord s'est agressée depuis 50 ans par les États-Unis, donc enfin 60 ans. Non, pour dire quoi, c'est que Poutine, quand même, les accords de Minsk ont été signés.
Ils ont l'arme nucléaire maintenant.
Oui, c'est les accords internationaux. Restons sur ce qui est important. Minsk, des accords où devait.
Mais il les a déchirés?
Non, c'est pas lui. Ah non, là tu te trompes. Vous trompez, c'est pas ça. Non. Les accords devaient être respectés par la partie ukrainienne et. Évidemment, Kiev ne les a pas respectés. Ces régions qui devaient être semées autonomes n'ont pas été respectées. Ce sont des raisons russophones. Alors rappelons-nous quand même que l'Ukraine, c'est pas n'importe quoi. D'abord, c'est le grenier à blé de l'Europe. Ensuite, c'est un des pays les plus riches d'Europe en termes d'exploitation minière. Une des plus grandes puissances de production industrielle de l'armement. Mais surtout, l'Ukraine, c'est quoi? C'est l'ancien pays qui a été une bataille stratégique,
surtout
je
ça.
Rappelle, il y a 75 ans, face aux nazis.
C'est
et que
ça.
Certains, dans cette question du Donbass, étaient des anciens néo-nazis. Donc, on peut pas dire aux Russes, messieurs les Russes, on va vous emmerder avec un flingue
dit,
sur votre... Juste à l'instant, on va vous mettre un flingue sur la porte de votre entrée. Alors, vous vous mettez un lance-roquettes alors qu'il ne devait pas venir. L'OTAN aurait dû être désagrégé en 92. On ne peut pas dire aux Russes, on va vous emmerder jusque chez vous. Mais de l'autre côté, disait rien. Je comprends la réaction de Poutine.
Mais il y a le début d'une invasion.
Non, c'est pas une invasion. Non, c'est la région russophone. Il faut être très honnête. Hein. L'Ukraine au départ.
Non, mais attendez,
c'est une zone russe.
La Crimée quand.
Jimmy Dalidou.
La Crimée, quand il y a eu les accords de Minsk. Il ne faut pas oublier que les accords de Minsk se situe dans la continuité des contradictions, des conflits qu'il y a eu via l'Euromaïdan en 2014, d'accord? Ça veut dire que, n'oublions pas que la Russie avait un bail en Crimée, notamment à Sébastopol. Parce que Crimée, il y avait
Sébastopol.
Était, voilà, et c'était un lieu stratégique sur le plan militaire, et la Russie avait un bail là-bas.
Absolument.
Et en gros, il avait une base navale d'installer là-bas. Donc vous avez les Européens qui débarquent en Ukraine et qui ils disent aux dirigeants ukrainiens: ah ben, t'es pas d'accord avec nos accords de marché européens, tu préfères aller consolider des accords de marché russes. Donc on va installer un coup d'état, on va effectuer un coup d'état fasciste, parce que l'Euromaïdan c'est ça. Oui, c'est un coup d'état fasciste organisé par les dirigeants européens. Et face à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Poutine? Vous savez ce qui s'est passé lors des accords de Minsk? 10 secondes. C'est ce qu'on appelle, ce que Lénine appelait un pas en arrière, deux pas en avant. Et il a gagné du temps pour pouvoir trouver une porte de sortie politique, parce que, encore une fois, je le répète, défendre la souveraineté nationale, ça ne veut pas dire défendre la connerie nationale.
Ah, je suis d'accord. Non, mais il y a une chose, on peut conclure là-dessus.
Oh, on peut, juste
10 secondes, j'ai 5 secondes, vite, je dois rendre l'antenne.
Rapidement, donc, on se rappelle ce qui a provoqué la Première Mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ça a été la Pologne, avec ce fameux corridor de Danzig. Là, on fait la même chose avec les Russes.
Et je dois rendre l'antenne, merci Jimmy Dalidou. À très bientôt.
À très bientôt.
Merci
bientôt.
Gamal Abida. Très passionnant, très bel échange. Gamal Abida, merci à vous. À la réalisation, c'était Yanis. Tout de suite, vous allez retrouver donc Bilal Nadman et le Thème Sport, 20h-21h. À demain. Avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien. Ciao!
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.